Il est 6h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Zemmour, Mélenchon, un débat sans surprise. Pendant plus de 2 heures, le polémiste d'extrême droite a tout de même réussi à imposer ses thèmes, l'insécurité et l'immigration abordés dès les premières minutes. Leur cible, le ministre de la Santé, des centres de vaccination et une loge maçonnique. 5 membres de l'ultra-droite sont en garde à vue, soupçonnés d'avoir participé à un projet d'attentat déjoué par les services de renseignement. En France et sur la planète, les jeunes de retour dans la rue pour le climat. Le mouvement de Greta Thunberg appelle à la grève aujourd'hui. Un nouveau souffle après des mois de crise sanitaire. Le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Il avait annoncé la couleur dès les premières minutes du débat. Face à Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour souhaitait que s'entrechoquent les idées, même choquantes. 2 heures de débat, d'échanges musclés aussi, notamment sur 2 thèmes chers aux polémistes d'extrême droite, l'insécurité et l'immigration.
Moi, j'étais condamné parce que je défendais une certaine idée de la France et qu'on ne supporte plus.
Mais quelle
plus
idée cette... Ça suffit maintenant.
Mais oui,
écoutez-moi.
Je suis désolé, monsieur Mélenchon.
Je suis en retard derrière vous. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe. D'accord ?
C'est pas mal.
Ça existe. Oui, oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort, qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on adhère pas à la convention internationale.
Là, vous décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon.
L'Arabie Saoudite.
Oui, ça s'appelle aussi les banlieues islamisées.
Non, mais c'est leur programme, c'est ce que vous racontez.
C'est très bien, monsieur Mélenchon.
Ah ouais.
Ah, ça, c'est très bien, parce que ce que vous venez de dire.
Vous êtes heureux là-bas.
Ce que vous venez de décrire, c'est exactement les banlieues islamisées, où les femmes se font insulter et cracher dessus quand elles sont habillées en jupe. Et qu'elles ne peuvent pas rentrer. Où étiez-vous quand les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les cafés à Sevran ?
Non, mais ça
où étiez-vous,
pas,
monsieur Mélenchon ?
Elle a été inventée,
mais dans tous les cafés
fois.
De banlieue, c'est comme ça.
Mais
bien sûr, enfin, mais voyons.
Éric Zemmour qui sera aussi l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos ce dimanche.
En attendant, il décolle aujourd'hui pour Budapest en Hongrie, lieu de pèlerinage pour toute la droite identitaire européenne, réunie pour le sommet démographique international où le polémiste doit intervenir.
Avant cela, Éric Zemmour sera reçu par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, courtisé par des politiques de toute l'Europe. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Après 11 ans au pouvoir, le dirigeant hongrois est devenu en quelque sorte l'incarnation d'une droite nationaliste et très conservatrice, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, le dictateur, comme l'appelait quasi affectueusement Jean-Claude Juncker, assume d'avoir créé une démocratie libérale au cœur de l'Europe. Médias et justice muselés, système électoral à sa botte, il tient tête à Bruxelles. Anti-migrants, Orban a fait échouer les efforts de répartition des demandeurs d'asile. Récemment encore, sa loi contre la promotion de l'homosexualité dans les écoles a fait scandale. Il défend les valeurs chrétiennes traditionnelles, mais il n'est pas en odeur de sainteté auprès du pape. Ce mois-ci, François a écourté le plus possible sa visite en Hongrie. À 58 ans, Orban reste un peu une énigme. Est-il un homme de conviction ou un provocateur opportuniste? Lui qui a étudié à Oxford avec une bourse du financier George Soros, celui-là même qu'il pourfend sur tous les tons. Lui qui a su occuper une place vacante sur l'échiquier politique hongrois après avoir incarné l'espoir de liberté dans son pays. En tout cas, il reste populaire, même si l'opposition s'organise, car la Hongrie de Viktor Orban a elle aussi une élection cruciale au mois d'avril prochain.
Isabelle Horry, correspondante à Bruxelles pour Europe 1.
On en vient à cette arrestation qui pourrait bien raviver la crise entre Barcelone et Madrid.
L'indépendantiste Carles Puigdemont a été arrêté hier en Sardaigne, loin de la Belgique où il était en exil depuis 2017. L'ex-président catalan sera présenté aujourd'hui à des juges italiens. 2 possibilités, sa libération ou son extradition vers l'Espagne. L'Espagne où nous retrouvons notre correspondant Henri de la Grille dans le journal de 7h.
6h03 sur Europe 1, la suite de votre journal avec cette tentative d'attentat. Déjouer.
L'attaque devait viser le ministre de la Santé, des centres de vaccination et une loge maçonnique. 5 membres de l'ultra-droite sont en garde à vue, tous membres d'un groupe néo-nazi. Zoé Pallier.
Le dossier, connu des juges antiterroristes, s'appelle Honneur et Nation, comme le nom du groupe néo-nazi qui serait à l'origine d'un projet d'attaque. Certains de ses membres identifiés au printemps dernier, alors qu'ils se renseignaient sur différents types d'explosifs et menaient des recherches sur le ministre de la Santé Olivier Véran. Des suspects aux horizons divers, parmi eux un ancien membre du Front National et des proches du gourou complotiste Rémi Daillet. Tous sont âgés de 23 à 58 ans. 3 d'entre eux ont été interpellés lors d'un coup de filet. 2 autres étaient déjà incarcérés dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement de la petite Mia. Leur garde à vue doit prendre fin aujourd'hui.
Le récit de Zoé Pallier pour Europe 1. Comment faire du neuf avec du vieux ? La SNCF a peut-être trouvé la solution. Transformer les trains corail démodés Baudet en Ouigo Rose Bonbon. L'entreprise lancera au printemps des trains intercités à petit prix. Des billets entre 10 et 30 euros pour trois lignes entre Paris, Nantes et Lyon. Alors durée du trajet, 4 à 5 heures environ, le temps d'admirer le paysage.
J-2 avant les élections législatives en Allemagne. Un rendez-vous aussi pour les défenseurs du climat, bien décidés à mettre la pression sur le scrutin.
Des milliers de personnes menées par Greta Thunberg manifestent aujourd'hui à Berlin et dans d'autres capitales de la planète. Une mobilisation stoppée net par la crise sanitaire et qui reprend vie aujourd'hui. Et à quelques semaines des négociations de la COP26 en Écosse, Louise Salé, les jeunes espèrent bien attirer l'attention des dirigeants.
Oui, leur message sur l'urgence d'agir pour le climat passe d'abord par une grève mondiale destinée à avoir un retentissement médiatique global. Mais les jeunes ont aussi gagné pour la première fois l'occasion de porter des revendications auprès de l'ONU. Lundi, donc, ils seront 400 à Milan pour préparer la COP26. Et parmi eux, Nathan Métainier, 22 ans, est depuis l'année dernière l'un des 7 conseillers climat du secrétaire général des Nations Unies.
En 2050, on aura 50 ans et le monde qui se dessine à nous en 2050 sans action, forcément, c'est un monde qui est terrifiant. Puis l'idée, c'est que pendant 2 jours, on va réfléchir à ces enjeux de climat. La dernière journée sera consacrée à un dialogue de haut niveau avec des décideurs politiques, comme le Premier ministre du Royaume-Uni ou de l'Italie.
Chaque pays est représenté lors de cette pré-COP par 2 jeunes. Et la difficulté sera donc de trouver à 400 un discours unifié et fidèle aux préoccupations de toute une jeunesse. Un thème notamment leur est cher et sera sans doute mis en avant, le lien entre injustice sociale et injustice climatique.
Louise Salé du service Société d'Europe 1.
C'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.